外伝。
Salut, vous êtes bien sûr Bagropoint et c'est Thème des JC avec
Wellcook
qui vous parle pour ce deuxième épisode de Crossover Gaiden.
Crossover Gaiden 2.
Et nous allons parler aujourd'hui du deuxième épisode de Fatal Fury en version animée. On est en quelle année, Wellcook?
Donc le téléfilm a été diffusé à la télé japonaise le 31 juillet 1993.
93, donc un an grosso modo, d'ailleurs vraiment un an après la diffusion du premier, parce que sauf erreur de ma part, le premier avait déjà été diffusé à la même période.
Donc a priori, le premier épisode était diffusé le 23 décembre 92.
Donc 6 mois après, en fait.
Voilà. Je suis pas tout à fait sûr s'il s'agit des dates de diffusion de sortie en vidéo. Peut-être qu'il y a un petit décalage. Et je ne connais pas la fiabilité de Anime News Network que nous utilisons comme référence de base de données pour ces téléfilms.
Donc comme tu viens de le dire, c'est du téléfilm. Chez nous, c'est arrivé dans les mêmes périodes. Alors on croit hein, de l'époque édité par Kazé, ces VHS là. Et là, donc du coup, nous on s'est appuyé sur le DVD dont on parlait lors du premier épisode. Qui donc regroupe les deux premiers OVA et le film dont on parlera certainement très vite derrière. Alors, quelle est la première chose qu'on peut dire par rapport à cette animation, par rapport à la première ?
La première chose qui sautera aux yeux des gens qui regarderont ce DVD, c'est quand même la partie technique. Autant le premier était assez léger et inégal, là, globalement, techniquement, c'est très égal. Il n'y a pas
très
de moment
homogène,
où,
ouais.
Très homogène, voilà. Il n'y a pas de moment où on se dit qu'ils ont eu un problème de budget, de temps ou de compétences. Donc a priori, vu que le premier téléfilm avait bien marché, ils ont réussi à monter le budget sur ce téléfilm-là. Et globalement, donc voilà, les séquences animées sont pas trop mal, les combats sont un peu plus travaillés, mieux rendus globalement. Donc ce point de vue-là, c'est tout bon. Les musiques, on change, c'est le même compositeur, mais on change quand même d'ambiance musicale. Qui est un peu plus sympathique avec des musiques qui savent se faire un peu plus discrètes et qui accompagnent plus l'action qu'elles ne viennent s'incruster par-dessus comme on pouvait le voir dans le premier téléfilm.
La première chose effectivement qu'on peut remarquer, c'est que l'animation est beaucoup plus agréable à regarder. Moi au départ, quand on le regardait, je me posais la question de savoir si j'avais un œil qui était moins critique parce qu'on s'était déjà bouffé le premier et que le premier était tellement agressif que du coup le deuxième passait mieux. Mais bon, si on fait un petit peu preuve d'objectivité, clairement il y a une réalisation qui est bien meilleure. Bon, par contre, du coup, les défauts du film, le revers de la médaille, c'est qu'on les voit beaucoup plus parce que du coup, c'est pas noyé dans justement tout un tas de choses comme dans le premier. Alors il y a moins de clins d'œil type gay friendly qu'on avait un petit peu zappé lors de notre premier enregistrement. Il n'y a pas de plan par exemple où Terry remet la couverture sur Joe ou des trucs comme ça, mais effectivement graphiquement il y a moins de mouvance et c'est beaucoup plus homogène, tu le disais à l'instant. Moi je regrette que certains personnages comme Joe par exemple à certains moments aient un graphisme et puis qui évolue un petit peu au cours de l'anime pour revenir à un graphisme plus proche de la première partie à la fin. Enfin, c'est assez voilà, il y a certains personnages, c'est assez inégal, mais les personnages principaux bougent peu. Alors on a évidemment l'arrivée de Mai et de bien d'autres, on va décortiquer un petit peu tout ça. Concrètement, on est toujours scénaristiquement dans des trucs un peu capillotractés des années 90 avec des plans qui servent pas à grand chose et grosso modo il y a un gentil, un méchant et voilà, c'est un petit peu l'histoire.
Crozer est pas si méchant que ça, c'est un peu... Est-ce que tu as lu One Punch Man dernièrement ? Je ne sais pas, mais c'est un peu un One Punch Man, c'est-à-dire que c'est un gars qui est surentraîné, qui est super balèze et qui est un petit peu dépressif parce qu'il a personne à son niveau, donc il court derrière le challenge pour se sentir vivre. Il n'est pas là pour... c'est pas un Jizz Award. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour la baston. Exactement comme dans le jeu d'ailleurs. Mm-hmm. Et sur ce point-là, tu es revenu sur le casting, donc on retrouve tous les personnages. Le caractère design, globalement, ils ont fait un énorme effort. Déjà,
Oula, oui.
Andy, on le reconnaît, c'est vraiment Andy. Il est redevenu blond, il a son costume. La plupart des personnages ont quand même un caractère design qui est très proche, beaucoup plus proche en tout cas du jeu vidéo. On a moins cherché à prendre des libertés là-dessus, à l'exception de Krauser. Je te laisse commenter le look de Krauser.
Alors, si j'ai un clin d'œil à faire à Frionel dans ce podcast, ce sera maintenant. Mais voilà, non, mais Krauser, alors déjà, Krauser a un charisme d'huître dans cet anime. Je ne sais pas pourquoi, parce que le personnage en lui-même est ultra charismatique dans le jeu. Et surtout, Krauser n'a pas de moustache. Et alors là, c'est vraiment. Bon, déjà, rien que ça, enfin, bon, y a un problème. Et dans le jeu, le fait que Krauser se batte avec une armure. Ça va dans le jeu, ça va tout, il n'y a pas de problème. Là, on a l'impression, en plus, comme les personnages se concentrent souvent, on a vraiment l'impression d'assister à un remake des Chevaliers du Zodiaque, mais genre un cosplay, c'est-à-dire que les mecs, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ont fait eux-mêmes leur costume. C'est super laid, c'est super désagréable.
Ça dépend, c'est vraiment typiquement pour Krauser, ça te gêne? Parce qu'honnêtement,
Ouais.
le Krauser qu'on a là, tu lui mets la moustache, tu rends peut-être son visage un peu plus âgé. Et c'est le même, parce que sur le reste du design, l'armure c'est la même, il a la même corpulence. C'est vraiment le visage, c'est le visage le problème. Je sais pas ce qui lui a pris de vouloir rajeunir le visage comme ça. Après,
Le nez.
voilà. Après, bon, c'est un choix artistique, c'est. Voilà. Ce jeu, enfin, pardon, ce film, fait quand même preuve de beaucoup plus de bonne volonté
Ah
que le
oui.
précédent. Mais il y a quelques détails qui sont gênants. On a parlé de Krauser. Il faut aussi parler de l'élément original de ce film, qui est donc dans le film d'avant, on avait le droit à l'amour impossible, la nana qui se sacrifie pour son héros, la bonasse qui se fait culbuter avant le combat. Et bah ben là, cette fois, on se tape le sidekick, le gamin qui veut devenir fort comme le héros, qui s'habille de manière assez pittoresque, 13 années 90, full jean avec une jambe en moins, enfin je veux dire une manche de jambe en moins au niveau du jean, qui est assez pathétique, mais... Et en fait, le personnage est là pour essayer de pousser Andy, parce que Andy... Pardon, Terry, je voulais dire, parce que Terry, il a sa face à Superman 2. C'est-à-dire que Terry se retrouve face à Krauser au début du film, se fait démonter la gueule, ensuite ça devient un clodo qui picole et qui se fait mettre minable par tout le monde, sauf quand de temps en temps il n'a pas envie de se faire mettre minable, et qui au bout d'un moment se réveille et se dit bon, allez, faut arrêter de déconner, je suis quand même un gars balèze, allez, on va buter le méchant, on développe un nouveau super coup spécial, et c'est parti, c'est la fête à Bibi.
C'est pas possible que ce soit Terry Bogard, regarde-le. Il est à moitié mort, ce type est complètement sous.
Tu t'appelles bien Hawk, pourquoi lui as-tu fait ça?
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour attirer ton attention.
C'était juste pour ça? Tu aurais pas dû. Tu vas payer. Tu vas payer pour ce que tu lui as fait.
Tu te réveilles enfin, Terry. Si tu veux, je peux attendre que t'aies fini de cuver.
Ce n'est pas la peine.
Aïe! Aïe! Il était complètement sous il y a à peine une minute, c'est incroyable.
Ce qui est rigolo en plus dans cette partie-là, c'est que ce soit dans ses souvenirs ou dans la réalité, en fait, il passe son temps finalement à se faire démonter par des mecs d'Art of Fighting.
Alors pas à se faire démonter, il y a deux clins d'œil à l'Art of Fighting, on voit le... Alors je me souviens plus du nom du personnage. Mais qui était le deuxième personnage qu'on affrontait dans le jeu, le gros motard loubard dans le bar, pardon. Et on voit aussi à un moment Terry qui se fait mettre sur la gueule par ce qu'on pensait être Takuma. Donc voilà, il y a deux, trois petits clins d'œil à Art of Fighting. Mais surtout, il y a. Enfin, contrairement au pro. Enfin, le premier film le faisait très peu et très maladroitement. Mais dans ce téléfilm-là, on trouve énormément de références qui nous renvoient au jeu. On retrouve les coups, on retrouve leurs coups, la manière dont ils sont mis en scène très proche. On voit les combattants régulièrement, alors c'est un peu bizarre, ils reprennent leur posture de garde du jeu, qui n'est pas forcément très esthétique une fois dessinée comme ça, mais le mérite d'être là. On retrouve des décors, des séquences. Des fois, je me demande limite si la BO ne s'en inspire pas un peu. Il faudrait regarder ça. Je suis pas sûr. Ça, je l'ai pas bien en tête, donc je suis pas sûr. Mais voilà, il y a quand même un bon effort de référencement par rapport au jeu, de renvoyer ces références-là, de s'en inspirer. Après, malgré tout, le film se traîne quelques-unes des tares du précédent. On retrouve encore Terry qui fait son Hado Senpeku, je ne sais plus comment il s'appelle.
Senpukyaku.
Senpukyaku, son super coup final inspiré par, par Tung Furu. Ikuze, Hakkyokusenke Obi, Senpuken! On a une séquence Star Wars où il parle avec des fantômes. Bon, ça c'est encore autre chose, mais qui nous renvoie au personnage de Lily qu'on a vu dans le premier film. Il y a la nécessité d'introduire un personnage qui est là pour faire le fil, donc pour raconter l'histoire du film.
Lily. Ore wa dou sureba ii?
Gomen nasai, Terry. Atashi ni wa wakaranai. Ne, Terry. Dou shitemo tatakaanakereba ikenai no?
Il y a une continuité qui est nécessaire et qui fond, mais malgré tout, il y a de la maladresse dans la narration, dans les dialogues, dans l'écriture, mais il y a de la bonne volonté. On sent qu'il avait envie de rendre hommage au jeu, ce qui transparaissait pas forcément dans le premier film.
Pour aller complètement dans ton sens, et tu disais tout à l'heure, esthétiquement, il va y avoir à un moment donné des aquarelles ou des scènes noires et blanches qui font clairement référence au poste du jeu. Mais tu parlais de maladresse scénaristique. Il y a des plans sur Crozer, par exemple, avec Geese Howard. On s'attend à une trame de fond où Geese va essayer de faire quelque chose pour revenir au devant de la scène. En fait, Geese ne sert absolument à rien, donc on ne sait même pas pourquoi il apparaît dans l'animation. Il y a plein effectivement de maladresses comme ça, en fait, où il y a des moments donnés où on se dit, mais quelle est la finalité de... Par exemple, le sidekick qui est là, effectivement, à un moment donné, va pousser dans une scène Thierry à redevenir lui-même. Donc on peut se dire, ok, bon, ils ont joué, ils ont arc-bouté le scénario par rapport à ça. Bon, c'est une excuse comme une autre, mais bon, ça existe, c'est là. Mais il y a plein de sous-histoires qui servent complètement à rien. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'à un moment donné, c'est Terry versus Crozer. Terry se fait battre. Et puis, deuxième scène, Crozer versus Terry, c'est l'inverse. C'est Crozer qui se fait battre, point final. Ça aurait pu être 10 minutes d'animation.
Non, mais bon, malgré tout, le film, il y a des énormes ficelles scénaristiques. Il y a des fois, on se pose des questions existentielles. Un coup, ils sont en Allemagne, un coup, ils ne sont pas en Allemagne. Ils voyagent à travers les océans en moto. Voilà, bon, c'est des ficelles des années 90 qu'on avait l'habitude de voir à cette époque-là, donc on s'est passé outre.
Particulièrement dans l'animation, parce que même si on le voyait dans les séries américaines, par exemple, c'était moins gros quand même, sur ce type de truc-là. C'est vrai qu'en général, bon, pour traverser l'Atlantique, par exemple, ils prenaient un bateau ou un avion, pas la moto.
Et encore, t'as pas vu le troisième film, qui est encore pire à ce niveau-là. Mais bon, voilà, donc il y a aussi une volonté de mettre en avant les relations entre les personnages. On a le petit triangle Jubei, Andy, May, qui font grosso modo un peu partie de la même famille. Joe, qui reste le pote des deux personnages. Kim, qui apparaît, bon, qui fait carrément du meublage au début du film. Mais qui apparaît et qui est fidèle au personnage tel qu'on le conçoit. Donc les personnages sont très fidèles à eux-mêmes, tous, contrairement au premier où Andy, quand même, on avait du mal à le voir. Et les autres qui ont fait de la figuration, là, tous les personnages qui apparaissent font pas juste une figuration de séquence. Ils ont un vrai petit rôle secondaire. Donc déjà, c'est aussi un peu plus généreux à ce niveau-là. Donc globalement, c'est... Non, mais c'est un téléfilm qui se laisse regarder.
c'est le mot généreux, je pense, est bien placé. Il y a vraiment, tu disais tout à l'heure, on sent que le réalisateur avait volonté de mettre en avant le jeu, et c'est exactement ça. Et moi, pour moi, c'est le gros plus de cet OAV par rapport au premier, c'est qu'on se retrouve en fait dans où on a envie de présenter un produit qui nous a plu et on a envie de le faire briller. Alors c'est parfois maladroit, on sent que c'est une commande, mais pour autant ça a été fait avec plus de moyens et plus d'amour que le premier. Alors ce serait encore l'époque des cassettes vidéo, il faut en choisir un, je vous dirais courez acheter le deuxième et laissez tomber le premier. Là il s'avère qu'aujourd'hui de toute façon c'est un seul et même DVD qui gère l'intégrale. Donc bah écoutez, si vous avez envie de jeter un œil dessus, bah, c'est le moment d'acheter l'ensemble. Comme on le disait lors du premier numéro, en plus on le trouve à pas trop cher. Voilà, et peut-être quelques maladresses comme les ruines romaines qu'on voit en Allemagne par exemple, ou les références historiques qui sont plus qu'incertaines, un Joe qui sait exactement où trouver Thierry à un moment donné, où c'est totalement improbable. Enfin ce genre de détails, on se dit bon ok, comment c'est possible qu'il se retrouve à des centaines de kilomètres, il n'y a pas de problème, mais ok.
Ouais, ce film-là, comme le premier, c'est quand même un sacré melting pot des différents clichés qu'on peut voir dans les films. Par exemple, la séquence où Terry marche bourré et on voit des néons à travers l'écran qui passent. Ça, c'est un truc qui a été vu et revu aussi des dizaines de fois. Donc voilà, mais à la rigueur, c'est une petite leçon d'histoire, j'ai envie de dire, de cette manière-là.
Il y a même le plan Mifle, mais il se la tape pas cette fois.
Non, il n'y a pas le plan de Leaf. Il y a May qui, c'est vrai, est une sacrée allumeuse par rapport à Andy.
Je pensais pas à May, je pensais à la mère de... Comment il s'appelle, le gamin Tony. De Tony.
Ouais, il y a la mère de Tony, mais bon, elle n'est pas si milf que ça. Mais voilà, non, franchement, le film est plaisant. Il a peut-être un peu moins de longueur aussi que le premier. Beaucoup moins, en tout cas, que le troisième film. Ça, c'est garanti. Et tu dis revenez sur l'utilité de Jeez. L'utilité de Jeez, c'est quand même à la... Bon, je spoilais un peu la fin, mais ça te laisse miroiter quand même un retour en puissance de Jeez en tant que grand méchant du troisième film. Et je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas le cas. mais voilà, ça laissait une porte ouverte à ça, à son retour. D'ailleurs, le retour de Jeez, c'est quand même un grand mimique récurrent de Fatal Fury. Il est mort, mais non, il est vivant. Comment efface ce peu Bon, il y a différentes interprétations.
Ceci dit, dans le jeu, on est d'accord qu'après le troisième, normalement, il meurt.
Après le troisième, normalement, il meurt. Peut-être. Je sais plus. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai envie de dire... le problème, voilà, c'est que ce film est quand même, sur beaucoup d'aspects, très proche du premier, mais en mieux, c'est la meilleure manière de le résumer. Peut-être, probablement, d'ailleurs, beaucoup plus fidèle que le premier par rapport au matériau originel. Donc si vous appréciez Fatal Fury 2, qui est quand même un des épisodes les plus appréciés, peut-être Fatal Fury spécial plus apprécié que Fatal Fury 2, parce qu'il corrige quand même quelques défauts de son aîné, c'est une pierre angulaire qui s'intègre bien dans l'univers Fatal Fury, mieux que le premier et infiniment mieux que le troisième, qui lui est complètement hors continuité et ne fait intervenir aucun personnage de Fatal Fury en dehors des quatre héros qu'on a l'habitude de voir, ce qui est un peu idiot, mais bon.
On y reviendra. En tout cas, une chose est sûre, en l'état, moi, dans le premier, il y a des moments où je me suis dit, où je me suis fait chier, alors que le deuxième, il n'y a pas un moment où je me suis fait chier. Il y a des moments où je me suis dit, bon, ça, c'est gros, mais ça, voilà, ça se laisse voir. Et pour peu que vous soyez un peu conciliant avec l'animation japonaise des années 90, je vous le répète, voilà, toute proportion gardée, toute chose remise dans leur contexte.
Voilà, ce téléfilm-là, il vaut le coup, il est honnête, pour le prix que c'est, donc allez-y. On est beaucoup moins sévère sur celui-là que sur le premier, et beaucoup plus généreux sur celui-là qu'on sera sur le troisième épisode, qui est même moins bien que le premier téléfilm.
On va donner rendez-vous pour un troisième épisode ?
On va donner rendez-vous pour un troisième épisode, un quatrième, un cinquième. On va essayer de taper de manière aussi variée que possible dans différentes productions récentes, anciennes, adapter des jeux de combat, et j'espère que ça vous intéressera. C'est pas gagné, vu que j'ai l'impression que quand je parle je dis de la merde, mais bon,
On attendra vos retours. Voilà. Puis il y a des moments où il faudra s'attaquer vraiment aux monuments du cinéma américain, comme des films comme Street Fighter, par exemple, où ce sera beau.
Street Fighter Movie ?
Ouais.
Mortal Kombat l'Armageddon ?
Tu feras tout. En fait.
Double Dragon ?
Oh là là. Non, mais Double Dragon, non, c'est pas un jeu de combat, vraiment.
Bah si, il y a de la baston à la fin.
Ouais, mais non.
Ah, pas Double Dragon.
Non, pas Double Dragon.
Bon, je suis sûr qu'on pourra trouver... Dead or Alive !
Dead or Alive, oui.
Grandiose. Moi, j'ai beaucoup aimé le film Dead or Alive.
C'est bien parce que c'est... Ah si, je l'ai vu en plus, celui-là. C'est celui où il n'y a pas de filles avec des gros seins.
Enfin, si, il y a beaucoup de filles, mais elles n'ont pas beaucoup de gros seins.
C'est ça, ouais.
Et puis, il y a aussi Tekken. Bon, là, c'est...
Mais bon, oui, on en reparlera.
On en reparlera. Mais voilà, il y aura peut-être les séries web Mortal Kombat. On va peut-être taper dans ce qui a pu être fait comme adaptation de King of Fighters, Another Day. Non, c'était, je ne sais plus c'était quoi le nom de la petite série animée qu'ils avaient fait. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé, mais on reviendra dessus, hein, on débattra. Et voilà, et puis donc, si on a des adaptations live, des adaptations animées, des films, des séries, Street Fighter 2V, je suis obligé de le regarder ou pas ?
On va être obligé. Tu l'as jamais vu en plus ?
Jamais.
Oh, alors tu sais ce qui va te faire le plus rire ? C'est pas tellement Street Fighter 2 Victory. C'est la série américaine Street Fighter.
Ce sera pour un prochain épisode.
À très bientôt, bisous tout le monde.
Bisous, bisous.
Terry ! Oira kaachan o taiji ni suru ! Demo, itsuka kitto Terry no you ni tsuyoku natte miseru ze ! Sayonara, Terry !
OK!
Gros point.